بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا الخامس إن شاء الله في دراسة كتاب العمدة بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي: باب في المدي وغيره. المدي بفتح الميم وسكون الذال، ويقال المدي المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. وقوله وغيره يعني أن هذا الباب فيه أحاديث في المدي وأحاديث في غيره، مثل نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة. دونك نصوم إن شاء الله dans le cinquième chapitre du livre de la purification. Ce chapitre qui concerne et qui est que l'auteur a réservé au liquide prostatique, ou ce qu'on appelle aussi le liquide séminal, qui est le madi ou le wadi. Le liquide séminal est une impureté légère, et s'il touche le vêtement, le simple aspersion d'eau suffit. Donc les émissions corporelles sont de plusieurs types: l'urine, les selles et le liquide séminal. Cela implique le lavage des parties et les ablutions. Quant au sperme, il implique le roussel, c'est-à-dire le lavage majeur. Les flatulences, donc les gaz, impliquent, et l'émission des gaz, impliquent uniquement le renouvellement des ablutions et aucun lavage, car c'est une émission non humide. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit ici, le madi, c'est un liquide fin qui sort après le désir et on ne sent même pas son émission. L'auteur, rahimahullah, a cité dans ce chapitre, dit Cheikh Al-Uthaymeen, d'autres hadiths concernant les annulatifs, certains annulatifs de l'eau d'eau. On a dit le hadith l'awwal fi l'bab, ou le hadith tarit ou l'ishlouna fi kitab al-tahara, an Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, قال كنت رجلا مدذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. Et donc le premier hadith dans ce chapitre, qui est le 23e hadith dans le livre de la purification, c'est le hadith de Ali radiyallahu anhu arda, qui a dit: j'étais un homme qui avait des émissions de liquide séminal très fréquentes, et j'avais honte d'interroger le prophète à ce sujet vu que j'étais marié à sa fille. Donc j'ai chargé le Miqdad ibn al-Aswad d'interroger le prophète alayhi salam à ce propos. Et le prophète a dit à Al-Miqdad qu'il lave sa partie intime, puis il effectue ses ablutions. Chez le Bukhari, l'expression chez le Bukhari, lave ta partie intime et effectue tes ablutions. Et chez Muslim, fais les ablutions et lave ta partie intime. Donc, Rawi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عمي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من حين بعث صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهلي في غزوة تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة، حتى قال فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه: أقضانا علي، تولى الخلافة بعد عثمان في آخر ذي الحجة سنة 35 إلى أن قتل رضي الله عنه شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج. L'auteur, le transmetteur plutôt du hadith, c'est Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, le prince des croyants. Le quatrième calife des musulmans est le fils de l'oncle des derniers prophètes, alayhi salatu wassalam. Il a été éduqué par le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a cru en le prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'il a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Le messager l'a marié avec sa fille Fatima, radiyallahu anha wa ardaha, et le messager lui a laissé la responsabilité de sa famille quand il est parti, alayhi salatu wassalam, pour la bataille de Tabouk. Le messager lui a dit, n'aimerais-tu pas être pour moi comme Haroun était pour Moussa, alayhi salatu wassalam. Seulement, il n'y a pas de prophète après moi. Le hadith il est chez le Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a attesté pour Ali, radiyallahu anhu, pour Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, le paradis. Et Ali était réputé par l'équitation et la cavalerie, et il était réputé par la bravure et la science, et il était doué de perspicacité. Omar a dit de Ali radiyallahu anhu arda, Ali était le plus fort parmi nous dans le jugement des litiges. Il est devenu calife après Uthman radiyallahu anhu majma'in à la fin de Dhul Hijjah en l'an 35 de l'Hijr. Il a été tué radiyallahu anhu arda au martyr après plus de 10 jours qui sont passés dans le mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hijr. Il a été enterré dans le palais de la principauté Al-Kufa. Il a été dit dans un endroit inconnu par peur des Khawarij. موضوع الحديث بيان حكم المذي. Le sujet du hadith, le statut du liquide seminal. شرح الكلمات قال رحمه الله مذى كثير المذي استحييت خجلت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي من سؤاله لمكان ابنته مني اللام للتعليل أي أن العلة والسبب من استحيائه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنها زوجته والمدي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بذلك والمراد بابنته هنا فاطمة صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدت في الإسلام وقيل قبل البعثة تزوجها علي في السنة الثانية بعد غزوة بدر فولدت له 3 أبناء وثلاث بنات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها أول أهل بيته لحوقا به وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة توفيت في المدينة في رمضان سنة 11 ولها 24 سنة et donc ici aussi l'auteur a cité la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima. Fatima est citée dans ce hadith et c'est la plus jeune fille du prophète alayhi salatu wassalam. Elle est née pendant l'islam, il a été dit aussi qu'elle était née un peu avant l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ali s'est marié avec elle en l'an 2 de l'Hijr après la bataille de Badr. Il lui a donné naissance à 3 garçons et 3 filles. Le prophète a dit concernant Fatima radiyallahu anha, il a dit, c'est une partie de moi, celui qui l'a mis en colère, il m'a mis en colère. Le hadith est chez le Bukhari. Le messager lui a annoncé à Aïcha qu'il serait la première à le rejoindre de tous les membres de la famille. Et le messager lui a dit, n'aimerais-tu pas être à la tête des femmes du paradis? Elle est morte, radiyallahu anha wa arda, en l'an 11 de l'Hijr, pendant le mois de Ramadan, et il avait 24 ans, radiyallahu anha wa arda. قال الشارح رحمه الله فأمرت المقداد طلبت منه, والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي, نسب إلى الأسود بن عبد يغوت الزهري لأنه تبناه, أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم, وشهد غزوة بدر وما بعدها, وشهد فتح مصر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون, ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. توفي سنة 33 ودفن في البقيع في المدينة. وإنما أمره علي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المدل في المدي, يغسل ذكره ويتوضأ. الجملتان خبر بمعنى الأمر كما تدل عليه رواية اغسل ذكرك وتوضأ, انضح أي اغسل فرجك ذكرك. والخطاب للمقداد بن الأسود, خاطبه لأنه هو السائل. إذنك دون الحديث يوسي النوتخ كومبانيون كي ستيوسيس كي المقداد بن عمرو بن تعلب الكندي, إلى تي أفلي الأسود بن عبد يهود الزهري car il l'avait adopté. Il est rentré dans l'islam au début de l'islam. Il a fait les deux hijratain, les deux immigrations vers l'Abyssinie. Il s'est marié avec Duba'a bint Zubair ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salam. Il a participé à la bataille de Badr et les batailles qui l'ont suivi. Il a participé aussi à la conquête d'Égypte et il a dit au messager alayhi salam: lors de la bataille de Badr, on ne te dira pas ce que Banu Israël ont dit à Moussa. Banu Israël ont dit à Moussa, dans cette traduction approximative du sens du verset, va combattre toi et ton souverain, ne restons assis là où nous sommes. Al-Muqdad lui a dit, mais nous, nous combattrons à ta droite et à ta gauche, devant toi et derrière toi. Il est mort, radiyallahu anhu arda, en l'an 33. De l'Égypte, il a été enterré à Al-Baqi' dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Ali lui a demandé d'interroger le messager alayhi salatu wassalam car ils ont eu une discussion au sujet du liquide séminal tous les deux. يقول الشيخ رحمه الله الشرح الإجمالي: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها, وكان كثير المذي, ومن أجله من أجل كونه زوجا لفاطمة استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه لأنه يتعلق بالشهوة والفروج. فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمذاكرة جرت بينه وبين علي رضي الله عنهما, فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر كله لأن ذلك يخفف المدي ويقطعه, وأن يتوضأ لأن المدي من نواقض الوضوء. Et donc le sens général du hadith dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était le mari de Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était le mari de Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et Ali sécrétait beaucoup de liquide séminal. La pudeur l'a empêché de poser la question lui-même au messager alayhi salatu wassalam, vu qu'il était le mari de sa fille, car c'est un sujet qui a rapport avec les parties intimes et le plaisir charnel. Et donc il a demandé à al-Miqdad ibn al-Aswad de demander au prophète alayhi salatu wassalam le jugement de ce liquide séminal, car ils ont eu une discussion sur ce sujet. Miqdad a posé la question au messager alayhi salatu wassalam, le messager lui a ordonné de laver toute la partie intime, car cela diminue l'émission du liquide ou l'arrête complètement, et qu'il fasse l'odo, car le liquide séminal fait partie des annulatifs de l'odo. فوائد الحديث: أولا جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحي منه للمصلحة. Parmi les leçons à retenir du hadith, il est permis à la personne de parler des choses duquel il a honte pour un bon but. Quand il y a l'intérêt, quand il y en a et il a le besoin. ثانيا أنه يجوز للإنسان لا يباشر السؤال بنفسه بسبب الحياء أو غيره. La deuxième leçon, la personne a le droit de ne pas poser la question lui-même s'il a de la pudeur et s'il a honte ou autre. Hein? Et qu'il demande à une autre personne, ce n'est pas un problème du tout. C'est autorisé. ثالثا أن من الأدب لا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة. Fait partie des leçons aussi et fait partie du bon comportement qu'on retient dans ce hadith, qu'on n'a pas à citer les choses qui ont rapport avec les parties intimes et avec les plaisirs charnels devant les proches de sa femme. خامسا رابعا جواز التوكيل في السؤال عن العلم بشرط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه. La quatrième leçon à retenir, c'est qu'il est permis de déléguer quelqu'un pour qu'il pose une question pour nous, à condition que celui qu'on délègue soit digne dans sa religion et bon et sûr dans sa mémorisation et sa compréhension. خامسا وجوب غسل الذكر كله من المذي. La cinquième leçon, c'est qu'il est obligatoire de laver toute la partie intime de devant à cause du liquide. Et quand il parle de toute la partie ada, les testicules aussi avec. Parce que ça permet, quand il est lavé, disent les hommes de science, de refroidir et de diminuer la sortie de ce liquide, ou de l'arrêter complètement. سادسا أن المذي ناقض للوضوء. Le sixième point à retenir, c'est que le liquide séminal est un annulatif de l'eau d'eau. Il est obligé de refaire l'eau d'eau. Après avoir lavé les parties intimes, il est obligé de refaire l'eau d'eau. سابعا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث لم يمنع الحياء من ترك السؤال بواسطة. Et là, il y a aussi la leçon à retenir, les mérites de Ali ibn Abi Talib. La pudeur ne l'a pas empêché de poser la question par une personne, hein, par en déléguant sa question à une autre personne. الحديث الثاني في الباب وهو الرابع والعشرون في كتاب الطهارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Et donc le deuxième hadith dans le chapitre, qui est le 24e hadith dans le livre de la purification, Abbad ibn Tamim ibn Zayd ibn Asim al-Mazini rapporte qu'un homme s'est plaint au prophète alayhi salam qu'il avait l'impression d'émettre des gaz pendant sa prière. Il avait l'impression, c'était pas sûr. Donc le messager a répondu qu'il ne quitte pas sa prière jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou sente une odeur. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. الراويان للحديث عباد بن تميم بن زيد رحمه الله ثقة من التابعين على المشهور. والراوي الثاني عبد الله بن زيد بن عاصم سبقت ترجمته في الحديث الثامن. Et donc les rapporteurs du hadith عباد بن تميم بن زيد, c'est un digne de confiance parmi la génération des tabi'in. C'est ce qui est reconnu, ce qui est réputé au niveau de sa biographie. Abdullah ibn Zayd ibn Asim, nous avons pris sa biographie lors du 8e hadith. موضوع الحديث بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة. Le sujet du hadith, et c'est un sujet qui est très important, la clarification sur le doute, hein, de l'annulatif de la pureté quand l'être est en état de pureté. C'est une clarification sur la position adoptée quand on est dans le doute, on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est quelque chose de très important, à laquelle il faut donner une importance, comme ça on ne tombe pas dans des situations qui vont nous rendre la vie difficile. يقول رحمه الله شرح الكلمات شكي بضم الشين وكسر الكاف مبني للمجهول والشاكي عبد الله بن زيد راوي الحديث والشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته الرجل أي حال الرجل وهو بضم اللام نائب فاعل شكا يخيل إليه أن يظن يجد الشيء أي الحدث بريح أو غيره يسمع صوتا أو يجد ريحا أي يتيقن ذلك بسمعه أو شمه والشرح الإجمالي قد يكون الإنسان على طهر فيحس بتحرك حدث عليه فيظن أنه أحدث ويقلق من ذلك وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يطمئن الإنسان ويزيل عنه القلق حيث أفتى عبد الله بن زيد حين سأله عن هذه المشكلة فأرشده إلى البناء على الأصل الأول وهو الطهارة وأن يبقى في صلاته فلا ينصرف منها حتى يتيقن زوال الطهارة بسماع صوت أو شم رائحة. Et donc, le sens général du hadith, la personne est en état de pureté. Il a son odeur, il est en état de pureté. Et tout d'un coup, il a la sensation. Il lui semble qu'il a émis un annulatif de la purification. Il se sent perturbé par cela. Le prophète l'a orienté et a orienté toute la communauté vers le moyen qui va lui procurer l'apaisement et lui enlever le sentiment de perturbation quand alayhi salatu wassalam a donné cette fatwa à Abdullah ibn Zayd quand il l'a questionné sur ce problème et il l'a orienté alayhi salatu wassalam vers le fait de rester sur la base de départ qui est la purification. À la base, tu as la certitude sur la purification. Donc tu restes sur cette base et de ne pas prêter attention aux doutes et à la sensation. Et qu'il reste dans sa prière et qu'il ne la quitte pas que s'il a la certitude que sa purification a été annulée. Et la certitude, il l'a comment ? Rasulullah lui a montré comment. Il a dit, tu entends un bruit ou tu sens une odeur. C'est-à-dire, tu entends le bruit du gaz ou là où tu sens l'odeur, son odeur. ونأتي إلى فوائد الحديث يقول رحمه الله إن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. La première des leçons, il dit رحمه الله عليه, celui qui s'est purifié n'est pas obligé de refaire l'odeau qu'une fois qu'il a la certitude que son odeau a été annulé. Il ne doit pas se baser sur le doute. Hein? La certitude, il a l'odeau khlas. Donc il n'a pas à le refaire s'il n'a pas la certitude que quelque chose a annulé son odeau. Hein? La deuxième leçon, أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث. La deuxième leçon, il n'est pas permis à quelqu'un de sortir de la prière tout simplement par le doute. Là, il faut qu'il ait la certitude avant de sortir. Il n'a pas de certitude, il reste dans sa prière. Thalithan, anna khuruj al-rihi min al-dubur naqidun lil-wudu' sawa'an 'alima bi khuruji 'an tariq al-sam'i aw al-sham aw ghayri dhalik. La troisième leçon à retenir, c'est que la sortie du gaz par le postérieur est un annulatif de l'odeau. Que la personne l'ait capté par le bruit ou alors par l'odeur ou autre. Hein? S'il le capte par l'odeur ou par le bruit, là, s'il sort, c'est un annulé, il a annulé son odeur. الفائدة الرابعة أن من الأدب أن يتجنب الألفاظ التي يستحيا من ذكرها. دي رحمه الله تعالى fait partie du bon comportement le fait d'éviter les termes desquels on a honte. ne pas utiliser les termes hein, duquel on a honte. خامسا أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه وأن اليقين لا يزول بالظن. La cinquième leçon à retenir, à la base, les choses restent telles qu'elles étaient. Ils ne changent qu'avec une certitude. Hein? La règle, la certitude ne se dissipe pas avec le doute. La certitude reste. Et ce n'est pas le doute qui vient l'annuler. Hein? Abadan. Donc la personne, il a le beau, tant qu'il n'a pas la certitude qu'il a émis un annulatif, là il a le beau, khlas. Il ne doit pas prêter attention aux sensations, aux doutes, etc. الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصى الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. Et donc le troisième hadith dans le chapitre et le 25e hadith dans le livre de la purification, Umm Qais bint Mihs al-Asdiya rapporte qu'il s'est rendu avec son nourrisson chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a pris son nourrisson, l'a mis dans son giron, alayhi salatu wassalam. L'enfant urina sur le vêtement du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda qu'on lui apporte de l'eau et il a aspergé tout simplement hein, la place qui a été souillée par l'urine de ce nourrisson. Il l'a tout simplement hein, versé de l'eau dessus. Hein. Il ne l'a pas lavé. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et dans l'autre hadith, le hadith de Aisha radiallahu anha wa ardaha, il dit on apporta un nourrisson au prophète et celui-ci urina sur le vêtement du prophète alayhi sallam. Le prophète demanda de l'eau, il a fait couler sur l'urine. Dans une version, il en versa sur les traces d'urine sans le laver. Le hadith aussi il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فالراوية للحديث عائشة أم المؤمنين سبقت ترجمتها في الحديث الثالث. وهنا معنا أم قيس آمنة بنت محصن أسدية هذه أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. إذنك لغابورتور دو حديث نزافون دو Aïcha radiallahu anha, nous avons vu sa biographie lors du troisième hadith. Et là, il ne reste Umm Qais, Amina bint Mihs al-Asdiya. Normalement, ce nom Mihsan doit faire tilt dans votre tête, parce que c'est la sœur de Ukash ibn Mihsan qui s'est levée et qui a demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais dua que ce soit parmi les 60 000 qui rentrent au paradis. عكاشة بن محصن. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'autre qui s'est levé sabakaka biha عكاشة. Et donc c'est sa sœur Umm Qais Amina, c'est sa sœur radiyallahu anhu ajma'in. Il est rentré dans l'islam à son début. Au début de l'islam il s'est converti et il a émigré vers Médine radiyallahu anhu wa ardaha et il a vécu longtemps. Et l'histoire de comme quoi il a vécu longtemps, c'est un dua du prophète alayhi salatu wassalam pour cette femme. Cette femme, radiallahu anha wa ardaha, était chagrinée par la mort de son fils, hada, au point de dire à celui qui le lavait, ne tue pas mon fils par l'eau froide. Et cette parole qu'a dite Umm Qais, radiallahu anha, a été apportée au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit à celui qui le rapporte, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait dua et cette femme a vécu très longtemps. Radiallahu anhu wa ardaha. Fa, nati ila sharh, le mawdou al-hadith, bayan kayfiyat tatheer thiyab min bawli sibyan. Le sujet du hadith, c'est comment nettoyer les vêtements quand de l'urine des enfants, des nourrissons qui n'ont pas mangé de la nourriture. Hein? Des nourrissons dont la simple nourriture, c'est le lait. Hein? Ce hadith, il concerne ça. Le nettoyage de l'urine, comment doit se faire le nettoyage de l'urine du nourrisson. Bibnillah, شرح الكلمات بابن الله غير مسمى وقد مات صغيرا فزجعت عليه وقالت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا رضي الله عنه وارضاها لم يأكل الطعام لم يكن الطعام قوتا له لصغره وإنما قوته اللبن وفي رواية لمسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام حجره بفتح الحاء حجره بفتح الحاء وكسرها وضمها أي حضنه توبه توب النبي صلى الله عليه وسلم نضخه رشه رشا يعم مكان البول ولم يغسله أي لم يكتر صب الماء ويدلكه أتي بصبي جيء إليه بطفل صغير وذلك من أجل أن يحنكه أتبعه إياه صبه على بوله والشرح الإجمالي اعتاد الصحابة رضي الله عنهم أن يأتوا بسبيانه من النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة ليحنكهم أو يدعو لهم أو بعدها تبركا بدعائه صلى الله عليه وسلم ولمسه إياهم وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فكان يتقبل ذلك من أصحابه ويحتضن أطفالهم ويجلسهم في حجره رحمة بهم وجلبا لسرور أهلهم وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصى الأسدية أنها أتت بابن الله صغير لم يبلغ إلى سن يأكل فيه الطعام ويتغدى به فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضق بذلك صدره عليه الصلاة والسلام ولم يعنف أهله أو يسب بل ما كان منه إلا أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يغسله كما أن عائشة رضي الله عنها تخبر بقصة مماثلة حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه مكان البول بدون فرق ولا مكاثرة ماء. إذن كنا غير وصن جنرال بحديث لكمبانيون رضوان الله عليهم avaient l'habitude de ramener leur nouveau-né au prophète عليه الصلاة والسلام pour qu'ils frottent leurs gencives avec une date. Hein? Ou tout simplement pour leur faire dua, ou après pour avoir la bénédiction du dua du prophète alayhi sallam et de ses caresses. Hein? Et alayhi sallam, il avait le meilleur des comportements. Il acceptait cela de ses compagnons quand ils lui ramènent leurs enfants. Il les prenait, alayhi salatu wassalam, il les mettait, hein, dans son giron, il les caressait, il les serrait contre lui, par compassion pour eux, et pour donner la joie à leur famille. Dans le hadith, Amina bint Mihsan, l'Asdiya, a annoncé qu'il a ramené son petit garçon, qui n'a pas atteint l'âge pour manger la nourriture, le messager l'a pris dans son giron et le nourrisson y a uriné. Et ceci n'a rien provoqué chez le prophète alayhi salam. Et il n'a pas engueulé sa famille. Et il ne les a pas insultés non plus. Hacha. Tout simplement, il a demandé de l'eau. Et il l'a versé sur le tissu, sans le laver. Juste verser l'eau sur le tissu. Aïcha a annoncé aussi une histoire similaire qu'on a ramené un nourrisson au prophète alayhissalam pour frotter sa bouche avec une date. Ce nourrisson a uriné sur le vêtement du messager alayhissalam. Le prophète a demandé de l'eau et il l'a versé sur la place de l'urine sans la frotter et sans y verser beaucoup d'eau. Les leçons à retenir du hadith. أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. La première des leçons, le bon comportement du messager عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغدى بالطعام لصغاره يطهر بنضخ الماء عليه بدون غسل. Deuxièmement, l'urine du nourrisson qui ne mange pas la nourriture se nettoie juste en versant de l'eau dessus sans le frotter, sans le laver. ثالثا أن عذرته لا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات. Troisièmement, la leçon à retenir, c'est que les excréments ou les selles du nourrisson, il est obligatoire de les laver comme les autres impuretés. الفائدة الرابعة أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى التطهر من الخبث ولئلا ينسى. La quatrième leçon, il est préférable de nettoyer la place sur laquelle il a uriné le petit et de verser de l'eau dessus tout de suite pour ne pas l'oublier et pour retrouver son état de pureté. Comme il a fait le prophète alayhi sallam, le gamin, il a uriné, il a demandé de l'eau, il l'a versé dessus. Hein? الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Donc le quatrième hadith dont le chapitre est le 26e hadith dans le livre de la purification, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu arda, rapporte qu'un bédouin urina dans un coin de la mosquée, et les compagnons qui étaient présents se mirent à le réprimander et à crier sur lui. Le prophète les arrêta. Laissez-le. Et après que le bédouin eut fini, le prophète ordonna qu'on verse un seau d'eau sur son urine. Et l'affaire, elle est réglée. Muttafaqun alayh. Rawi al-hadith, Anas ibn Malik. Marrat tajrabatuhu ma'a al-hadith al-hadi ashar. Le rapporteur du hadith, c'est Anas ibn Malik. Nous avons vu sa biographie, lors du 11e hadith. Mawdou' al-hadith, bayan kayfiyat tatheer al-ard min al-bawl. Le sujet du hadith ici montre comment nettoyer la terre des impuretés. شرح الكلمات أعرابي بدوي وهو ساكن البادية طائفة المسجد أي جانب المسجد والمراد به هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة زجره الناس نهروه بشدة وصاحوا به نهاهم طلب منهم أن يكفوا عنه بذنوب بفتح الدال وهو الدلو فأهريق بضم الهمزة وسكون الهاء صب عليه على بوله. الشرح الإجمالي كان الغالب على الأعراب الجفاء والجهل بحدود الله تعالى. وفي هذا الحديث الذي حدث أنس به مثال لذلك، فقد دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه، فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس يبول، فاستعظم الصحابة ذلك وصاحوا به يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهذا الجاهل وتقديرا لحاله وتعليما للأمة أن يعالجوا الأمور بالحكمة والرفق. فلعل هذا الأعرابي لو قام من بوله لتلوث بدنه وتيابه وجانب أكبر من المسجد وتضرر بقطع بوله،
فلما انتهى الأعرابي من بوله وزال خوف هذه المحاذير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مفسدة بوله بتطهير مكانه، فأمر أن يصب عليه دلول من ماء. وزاد مسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتركه وقال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Donc le sens général du hadith, en général, la dureté et l'ignorance des lois d'Allah est une des caractéristiques des bédouins arabes. Le hadith d'Anas est un exemple de cela. Un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète à Médine. Le prophète ainsi que ses compagnons étaient dans la mosquée. Le bédouin est allé à un endroit de la mosquée, il s'y est assis et a commencé à uriner. Les compagnons ont trouvé que l'acte est ignoble. Ils ont commencé à vouloir le réprimander et à crier. Le messager leur a interdit de le faire. Par compassion pour cet ignorant, et en même temps, le prophète alayhi salam a pris en considération sa situation. Et aussi, alayhi salam, il a enseigné à la communauté comment remédier au problème avec sagesse et avec doigté. Peut-être que si le bédouin s'est levé, il aurait souillé ses vêtements et son corps et une grande partie de la mosquée en essayant de se sauver. Et peut-être il se ferait peut-être du mal en coupant son urine par la peur et par les frayeurs. Et quand le bédouin a terminé d'uriner et que la peur de ses conséquences a été dissipée, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de verser un seau d'eau pour nettoyer l'endroit. Muslim rahimahullah rapporte un hadith qui est une suite à cette histoire, que le messager a appelé le bédouin et lui a dit: les mosquées ne sont pas faites pour les ruines et pour les impuretés, mais elles sont faites pour l'invocation d'Allah, pour la prière, pour la lecture du Coran. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, le Bukhari rahimahullah dans le hadith d'Abu Huraira dit que le messager a ordonné aux compagnons de laisser le bédouin faire. Hein? Et il leur a dit: vous êtes envoyés pour faciliter les situations aux gens et non pas pour les rendre difficiles, pour rendre les situations difficiles. Fawaid al-hadith: al-inayatu bil-masajidi wa tanzihuha anil bawli wal-qadr. La première des leçons à retenir du hadith: l'importance de s'occuper des mosquées et qu'il faut les préserver des saletés et des sueurs et des impuretés. Taniyan, wujub tathir al-masajid min an-najasah fawran idha hasalat. La deuxième leçon: il est obligatoire de nettoyer tout de suite les impuretés qu'il y a dans la mosquée. S'il y arrive qu'il y a des impuretés, il faut les nettoyer tout de suite. Hein, il faut pas laisser traîner. ثالثا أن الأرض تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار إلا أن تكون النجاسة باقية فتزال قبل صب الماء. La troisième leçon: la terre se nettoie en y versant de l'eau une fois sur l'endroit de l'impureté, sauf si l'impureté subsiste. Dans ces cas-là, si l'impureté est encore là, il faut l'enlever avant de verser l'eau. Il faut enlever, la dégager avant de verser l'eau. Al-fa'idatu al-rabi'a, حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في عند التعليم وإزالة المنكر. لا quatrième leçon à retenir, le bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام et sa sagesse lors de l'enseignement et lors de l'interdiction du blâmable عليه الصلاة والسلام. ونأتي إلى الحديث الخامس وهو الحديث الخامس في الباب والحديث السابع والعشرون في كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونثف الإبط. Donc, le cinquième hadith dans le chapitre, qui est le 27e hadith dans le livre de la purification, selon Abu Huraira radiallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit cinq qualités ou cinq caractéristiques font partie de la nature originelle. La circoncision, le fait de raser les poils du pubis, le fait de se tailler la moustache, le fait de se couper les ongles, le fait de s'épiler les aisselles, et c'est le fait d'arracher les aisselles. Et on arrive à les arracher si on s'y habitue au moment où ils viennent de commencer. Ils sont encore fins, ils ne sont pas durs. À ce moment-là, ceux qui s'y habituent du moment-là, ils y arrivent facilement, ils partent tout seuls sans qu'il y ait de, sans que ça fasse mal, et sans que, et du sang qui sort. Hein? Là, il y a des gens, hein, qui sont habitués, il fait juste comme ça avec son doigt, il tire, il pose tout dans la poubelle. Hein? Mais ça, c'est une éducation à prendre avant que ça pousse. Comme ça, dès qu'il commence ce poil fin à apparaître, tu l'enlèves facilement. Il te suit. Rawi al-Hadith Abu Hurairah radiallahu anhu arda, marra tarjamatuhu fil hadith al-Tani. Le rapporteur du hadith, c'est Abu Huraira. Sa biographie est passée avec nous lors du deuxième hadith. Mawdou' al-hadith, bayan khisal al-fitra. Le sujet du hadith, il nous montre les caractéristiques de la nature originelle. Hein? Fal-fitra, ay khisal al-fitra, wal-murad bil-fitra tihuna ma futira al-nasu ala husnihi, ay jubilu ala husnihi. Khams, ay khamsu khisal. Al-khitan, qat'u جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج. الاستحداد حلق العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبول. قص الشارب قطع أطراف شعره بالمقص. والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. تقليم الأظافر قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم. نتف الإبط قطع شعره من أصله. والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب. والشرح الإجمالي يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها. وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضا، وقص الشارب لأنه نظافة وجمال منظر، وتقليم الأظافر المانع لتراكم الأوساخ تحتها والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب، ونتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور. Donc le sens du hadith, dans la religion musulmane, il y a la cime des nobles comportements qui sont conformes à la nature originelle. Hein? cette nature originelle qui est bonne, qui est complète, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. Dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, le prophète montre 5 parmi les caractéristiques de la nature originelle. Ces 5 permettent la purification et l'embellissement de l'être humain. La circoncision, qui complète la pureté des mâles et qui tempère la nature des femmes. Et le fait de se raser les poils du pubis pour que les impuretés de la sueur et celles qui descendent du bas du ventre ne s'y accumulent pas, et pour être en parfaite purification, pour que la personne soit dans une parfaite purification. Et se tailler la moustache, car c'est une pureté et c'est aussi un embellissement pour l'homme. Et se couper les ongles pour que la saleté ne s'accumule pas entre la chair et l'ongle, et pour s'éloigner de l'aspect des animaux, pour ne pas ressembler aux animaux qui ont des griffes. Et arracher les poils des aisselles ou les épiler si on veut, pour ne pas avoir les mauvaises odeurs qui découlent de la transpiration et de la saleté accrochée aux poils. يقول رحمه الله فوائد الحديث أولا مشروعية هذه الخصال الخمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط لأنها من الفطرة. La première des leçons à retenir ici du Cheikh rahmatullah alayh, la légification et la recommandation de ces 5 caractéristiques de la nature originelle, qui sont la circoncision, le fait de raser les poils du pubis, le fait de tailler la moustache, le fait de couper les ongles, le fait de épiler ou d'arracher les poils des aisselles. ثانيا يقول رحمه الله ان الافضل القص في الشارب لا الحلق القص والنتف في الابط والحلق في العانة فإن شق النتف أزال الشعر بأي مزيل. Et il dit rahimahullah ta'ala, le mieux pour la moustache c'est de la tailler, c'est pas de la raser, c'est de la tailler. Et le mieux pour le poil des aisselles c'est de l'arracher. Et c'est l'arrachage est difficile, donc on l'enlève par n'importe quel moyen. On le rase, soit avec les produits maintenant d'épilation ou autre, le mohim on l'enlève. Et le mieux pour la partie intime de devant, c'est de raser les poils du pubis, c'est le mieux. يقول الفائدة الثالثة كمال الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة ومراعاة النظافة. Et il dit rahimahullah ta'ala, la troisième leçon, c'est que la législation musulmane est complète et parfaite et concorde avec la nature originelle et donne l'importance à la pureté. وهنا يقول تكميل يقول لم يبين في هذا الحديث متى يكون القيام بهذه الخصال. يقول فأما الختان ففعله في زمن الصغار أفضل لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برءا وأقل ألما ولا يؤخر عن البلوغ. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط فمتى طالت أخذت لكن لا تترك أكثر من 40 يوما لقول أنس رضي الله عنه أنس بن مالك وقت لنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة رواه الإمام مسلم. Et donc pour compléter ce passage, Cheikh Al-Uthaymin il dit, il n'a pas été dit dans le hadith quand est-ce qu'il faut accomplir tout cela, quand est-ce qu'il faut accomplir la circoncision et tout le reste. Dit la circoncision doit être effectuée à bas âge, c'est le mieux, car c'est entreprendre le bien le plus vite possible, et ça guérit très vite et il y a moins de douleur pour l'enfant, et on ne doit pas la retarder jusqu'à la puberté. On n'a pas à la retarder jusqu'à la puberté. Et le mieux, c'est de la faire quand il est encore nourrissant, hein, et quand ils sont encore petits. Parce que ça guérit très vite. Parce qu'au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Hein? Mais en aucun cas, il faut la laisser jusqu'à ce que l'enfant soit pubère. Quant au rasage du pubis, y couper les ongles et tailler la moustache et épiler les aisselles, il faut le faire quand c'est long. On doit le faire. On ne doit pas les laisser trop longs. Hein? Et on ne doit pas dépasser 40 jours. Pourquoi? Le hadith rapporté par Anas, chez l'imam Muslim, rahimahullah, qui a dit que le prophète, alayhi salam, leur a limité le temps de tailler les moustaches et de couper les ongles et d'épiler les aisselles, hein, en 40 nuits. Et 40 jours. On ne doit pas dépasser n'importe comment, hein, on n'a pas à dépasser les 40 jours, hein, pour la moustache, pour les ongles et pour les parties intimes. Hein? ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا